tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Dimanche, nous allons fêter la Pentecôte. Cette grande fête où l'Esprit descend sur les apôtres comme des grandes langues de feu. Tout le monde connaît bien ce texte, bien sûr. Mais nous allons aussi reparler un petit peu de l'Ascension. Parce que c'est une fête qui, elle, est terrible. Nous fêtons le départ de Jésus et le monde se retrouve sans Dieu. Pour commencer, je vais lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi, il était. Dans sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. »
La deuxième lecture du jour se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 19. « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous, encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. » Et la troisième et dernière lecture du jour se trouve au chapitre 20 de l'Évangile de Jean, les versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thank you.
Je m'en vais, je pars. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui parle. J'essaie juste de mettre quelques paroles dans la bouche de Jésus. Je m'en vais. Ne croyez pas que ma présence soit la condition de votre salut. Au contraire, c'est mon absence qui vous fera vivre ce que vous devez vivre.
Avec l'ascension, nous avons vécu la fête peut-être la plus terrible du christianisme. Sans aucun doute, aussi fort que le vendredi saint. Le jour où Dieu s'en va. Le jour où Dieu s'absente, il part. Oh, pour la plupart d'entre nous, le jeudi de l'Ascension est un pont de plus du mois de mai. C'est l'occasion de tondre son gazon, de faire une grasse matinée peut-être, ou bien d'autres choses. Mais tel est bien le sens de cette fête chrétienne. Jésus part et il nous laisse.
L'Ascension est donc cette terrible fête où le monde se retrouve sans Dieu. Il nous laisse. Mais il ne nous laisse pas seuls. En partant, il nous dit ceci, « Le Père vous donnera un autre défenseur qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité. » C'est cette absence-présence qu'il nous faut saisir. Dieu part. Il ne sature pas le monde de sa présence. Il part car il nous considère comme responsables de nos choix. Il ne vient pas nous surveiller en permanence. Il ne met pas de caméra partout pour nous surveiller. Dieu n'est pas Big Brother. Il nous laisse libres. Il nous donne la terre à construire, à embellir, à travailler. Il nous laisse autonomes. Mais l'autonomie en question n'a rien à voir avec l'individu triomphant que nous sommes devenus.
Notre pasteur nous racontait qu'au catéchisme, dernièrement, il avait fait imaginer le scénario suivant aux catéchumènes. Il leur avait dit « Vos parents vous disent brusquement « On part, on va partir longtemps, on va revenir, mais on ne sait pas quand. Je vous confie la maison et accessoirement une grosse somme d'argent. Que faites-vous » Chers parents, oh que vos enfants sont prudents et vous les avez bien élevés, car ils ont dit entre autres « J'investis la moitié comme ça avec les intérêts, je ne manquerai de rien, mais il faut quand même un peu de liquidité pour payer ma connexion Internet. » Un autre a dit « D'abord et avant tout, j'achète un stock de nourriture. » Aucun, curieusement, n'a pensé à arrêter ses études. Sous cette avalanche de bonnes réponses, il y a un qui a dit « Nul ne pense donc à faire la fête une fois les parents partis. » « Oh si, quand même un peu, » ont répondu certains.
Le pasteur continue à les questionner. « Vos parents vous ont appris des choses basiques qui peuvent vous aider en leur absence. Quelles sont ces basiques ?» Là, il a eu deux réponses. « Manger des choses saines, ne pas faire entrer des garçons à la maison. » Dieu part. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous a laissé les basiques, lui aussi, la Bible et la prière. Et nous serions insensés de ne pas y recourir. La Bible, c'est manger des choses saines. La prière, je ne sais pas si c'est ne pas laisser entrer des garçons à la maison.
À côté de la Bible et de la prière, Dieu nous a fait un beau cadeau, le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ce Saint-Esprit ? Au fond, c'est assez simple. Le mot grec utilisé ici est « pneuma », ce qui a donné le mot « pneu » ou « pneumatique ». Il s'agit donc de recevoir un souffle et surtout de ne pas se dégonfler. Mais il y a un malentendu à propos du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent « maintenant que j'ai reçu le Saint-Esprit » ou « quand tu auras reçu le Saint-Esprit ». Il parle un peu comme si le Saint-Esprit était un objet qu'on peut posséder dans sa poche ou dans son armoire. On l'a même chosifié comme une personne statique de la Trinité.
C'est oublier que le vrai sens du mot « esprit », c'est « souffle ». Et on ne possède pas le souffle. Le souffle est toujours en mouvement. Essayez un peu de garder votre souffle physique. Bloquez votre respiration longtemps. C'est impossible. Vous mourriez. Il faut toujours inhaler et exhaler. Il y a inspiration et expiration. Ainsi, dit Jésus, en est-il du souffle de la nouvelle naissance. C'est un mouvement constant entre Dieu et l'être humain.
Tous, nous avons reçu un premier souffle qui fait que l'on est vivant. C'est la respiration qui apparaît dès la naissance. Le second souffle est celui qui nous fait comprendre pourquoi l'on vit. Et ce second souffle nous fait agir. Calvin dira « Le Saint-Esprit est reconnaissable par ce qu'il fait faire ». Par nature, le vent comme le souffle ne se voit pas. Seuls les effets sont repérables. Le feuillage d'un arbre qui se met à frémir, la voile d'un bateau qui se gonfle, les tiges des herbes et des fleurs qui se courbent, les nuages dans le ciel qui avancent. Nous avons tous la respiration, mais avons-nous l'inspiration? Et que ce soit donc clair, on ne possède pas le souffle, on est seulement traversé par lui.
Et au fond, c'est ce que je vous souhaite à tous pour ce jour de Pentecôte. C'est de ne pas en rester à la respiration, mais d'être dans l'inspiration. Que notre souffle peut exhaler non seulement du CO2, mais aussi une parole de témoignage sur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et c'est ce que Paul dit à son disciple Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Mais avec ces histoires de souffle, évidemment, il y a des cas d'asphyxie et parfois des réanimations nécessaires. Ça ne souffle pas toujours correctement, n'est-ce pas? Il y a des personnes pour qui tout va bien. Mais parfois, nous sommes essoufflés, desséchés. Lorsque le mal-être, le mal-faire, le mal-vivre nous ronge, nous mine, nous laisse abattus, écartelés, déboussolés, tiraillés, à bout de souffle, nous aspirons alors à un élan nouveau de vie, à un vent venu du large qui nous emporte vers d'autres rives. L'Évangile est alors une bonne nouvelle, en ce sens qu'il révèle un Dieu qui toujours se soucie de l'humain pour le relever et le faire vivre.
Mais que faire en cas d'asphyxie? Plusieurs types de réanimation. Le bouche à bouche, pression sur le thorax, voire quelque chose d'électrique, quelque choc électrique. Mais il y a aussi le poumon d'acier qui temporairement fait tout ce que devrait faire le corps pour respirer, jusqu'à ce que ce corps reprenne le relais. Un appareil respiratoire aussi pour les asthmatiques. Et oui, parfois, quand on n'arrive plus à respirer tout seul, on peut se laisser porter par d'autres, voire par l'Église, jusqu'à ce que le corps puisse à nouveau prendre le relais. Et l'erreur serait de se couper des autres justement quand on est essoufflé. Vous qui vous plaignez de l'absence de Dieu, avez-vous essayé le principe du poumon d'acier ou de l'appareil respiratoire, où on se laisse insufflé par un autre.
L'appareil respiratoire que Dieu offre, ça peut être la Bible. Est-ce qu'elle est lue ou est-ce qu'elle sert à caler les autres livres sur la bibliothèque? C'est là que des millions de personnes retrouvent le rythme vital, le souffle de Dieu. Alors, pourquoi ne pas essayer? L'appareil respiratoire, c'est aussi le culte ou la messe, où l'on respire ensemble le souffle de Dieu. C'est la Sainte Cène ou l'Eucharistie, où, entre autres, nous sommes tous accueillis par le Seigneur. Que nous soyons noirs ou blancs, bien portants, dépressifs, patrons, ouvriers, tous nous sommes accueillis par le Seigneur. Et ces lieux de respiration nous sont offerts. Certes, le pasteur n'est pas toujours inspiré, mais venez quand même, on ne sait jamais ce qui peut toucher au cours d'un culte. Et n'attendez pas d'être à bout de souffle pour vous en soucier.
Les extraits musicaux au cours de notre émission sont du psaume 112, Laudate et Pueri de Handel. Veillez à vous nourrir régulièrement et non pas seulement à Noël, Pâques et Pentecôte. Sérieusement, qui songerait à manger seulement trois fois par an? L'église qui naît à Pentecôte est un lieu offert pour souffler et pour reprendre haleine. Attention, probablement, tôt ou tard, l'Église va aussi vous décevoir, et je préfère le dire. Il y a des choses très belles dans l'Église, aider les autres, prier. Mais vous allez y trouver des personnes peut-être peu sympathiques, une institution lourde, des personnes qui ne partagent pas vos idées. Mais n'oubliez pas la responsabilité qui incombe à chacun, et tel est le sens de l'engagement que tous, que tous les confirmés prennent, mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans l'Église, ce que vous désirez, alors pourquoi pas apportez-le vous-même. Si l'Église où vous êtes est par exemple un peu triste, apportez votre sourire, etc. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire.
Terra in opem, terra in opem. Suscitanza terra in opem, terra in opem.
Pour conclure, Dieu est parti, c'est l'ascension. Il nous confie nos vies, il nous confie la terre. Comment allons-nous nous en débrouiller? Être acteur de la vie? Être spectateur? Être des spectateurs qui râlent et qui critiquent? Un petit peu de tout ça peut-être. Après le départ de Jésus, les disciples se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes. Certes, ils ont revu Jésus, le ressuscité leur est apparu, puis les a quittés, le jour de l'ascension, en leur promettant une puissance à venir, celle du Saint-Esprit. Mais dans l'attente, dans l'expectative, ils se mettent à l'abri des dangers et des menaces de l'extérieur, face à un monde qui peut leur paraître hostile. Pas question de sortir, car comment imaginer l'avenir? Comment imaginer une suite alors qu'ils ont l'impression d'être abandonnés à leur sort?
Ces disciples, rendus quasi muets par la peur et par le manque de perspective, vont cependant redevenir des êtres de parole et de communication. Et ils auront alors une parole audacieuse, courageuse, libérée, qui les mettra en relation avec des personnes jusqu'alors inconnues. Non seulement ce souffle nouveau de Dieu les fait parler, mais il les fait parler autrement, puisqu'ils sont entendus et surtout compris. Et le paradoxe qui est régulièrement souligné, c'est qu'à l'heure où nous avons des moyens de communication puissants, de plus en plus puissants, jamais égalés dans le temps, notre époque connaît plus de souffrances, de solitude. On peut faire Facebook, tweeter toute la journée, avoir des followers, envoyer des mails. Nous sommes tous hyper connectés et pourtant notre société secrète de plus en plus de solitude. On a donc les moyens techniques, mais on n'a pas l'esprit qui va avec. Le Saint-Esprit que Dieu envoie à Pentecôte crée du lien. Il produit la paix, il secrète la fraternité et il appelle le témoignage.
Alors, quel esprit nous anime? Un esprit d'audace? Un esprit d'équipe? Un esprit de persévérance? Un esprit de revanche-vengeance? Un esprit d'écoute? Un esprit de tendresse? Un esprit de simplicité? Quel est le vent qui oriente notre route? Que chacun y réponde pour lui-même. Mais voici ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, rue Saint-Thomas à Chartres et que nous serons très heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Oh.
Cool, I see.